Je vais commencer par mon histoire avec les ateliers hippiques, finalement. Les ateliers hippiques, je les ai rencontrés via Gérard Peck, leur directeur, en 98. Les ateliers hippiques, alors dans l'ordre, si on prend au départ, en 1966, Xenakis avait créé le CEMAMU, le Centre de mathématiques et automatique musicale pour la création d'outils qui permettent la création musicale via l'électronique en 66, et donc en 77 le premier UPIC a été créé. Les ateliers UPIC, eux ont été créés plus tard dans le but de promouvoir et d'offrir un soutien pédagogique sur cette machine. C'est là que je rencontre donc les ateliers hippiques en 98, donc encore plus tard, lorsque un peu plus tard, après le changement de direction, lorsque Gérard Peck devient directeur. Quand je suis arrivé aux ateliers, à l'époque, on pouvait utiliser un certain nombre d'outils, l'UPIC était de ceux-là, il y avait aussi... il y en avait d'autres. Suis-je là ? Il y avait notamment la Mars, bon, sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps et qui était une machine créée par les ingénieurs de Bontempi pour tester leurs algorithmes de génération sonore. Elle était programmable graphiquement, selon des principes qui sont similaires à MaxMSP de nos jours. MaxMSP qui est apparu à l'époque, à cette époque, et qui est devenu un standard pour la programmation du son en temps réel. La Mars était utilisée dans plusieurs laboratoires de musique électroacoustique, notamment il y a eu parmi ses utilisateurs Stockhausen, Berio et Nono. Je parle de cet outil parce que, bon, ça a une importance pour moi, mais aussi parce que à cette époque, c'est une époque charnière de l'informatique musicale, parce que lorsque nous avions des idées de génération sonore via l'informatique, on ne pouvait les expérimenter qu'à l'intérieur de structures spécialisées. Aujourd'hui, le pouvoir créateur dans le domaine informatique se trouve somme toute dans les mains de quiconque dispose d'un ordinateur. Éventuellement, ce que le studio peut vous apporter, ce n'est pas forcément une capacité de calcul comme c'était à l'époque, mais c'est éventuellement un matériel de qualité pour la diffusion du son, un espace pour l'utilisation de ce matériel et un accompagnement humain. On peut aussi mentionner la présence d'instruments vintage, comme les synthétiseurs analogiques qu'on a pu maintenir en bon état. Dans le cas de l'UPIC, c'est un des travaux qui est en cours aussi au Centre Xenakis. C'est le passage de... nous avons la version matérielle, qui date de 91. Et il est question quand même d'essayer de la maintenir en fonctionnement correct, parce que ce qui s'est passé en 2001, lorsque l'UPIC est devenu UPIC Software, ça a occasionné une modification des qualités sonores. Cette modification, elle a souvent été commentée par les utilisateurs. Et c'est aussi le genre d'expérience qu'on peut voir chez, en général, les utilisateurs de machines, des inconditionnels, qui considèrent qu'on ne peut pas émuler totalement avec les algorithmes, le matériel d'époque. Alors, ce qu'il y avait de spécial dans l'UPIC, pour moi, c'était le chemin le plus court qu'on puisse concevoir entre l'imagination compositionnelle et la production du son en lui-même. Pour moi, c'était surtout un outil pour pour faire des expérimentations, finalement. Je ne m'en suis pas tant servi pour la composition. Comme pas mal d'autres compositeurs, l'utilisation était également dans, se faisait dans l'idée de créer du matériel qu'on allait ensuite transformer avec d'autres moyens. Mais en tout cas, quand je dis chemin le plus court, ça tient si on reste dans le domaine de l'esquisse. Évidemment, ça, là, si on fait une esquisse, on a un résultat très rapide. Mais c'est comme avec toute machine, si on a des souhaits plus précis, il faut y consacrer plus de temps. Plus tard, vous verrez une esquisse de Mycène Alpha, qui est la pièce principale réalisée par Xenakis. Ça témoigne assez du travail qu'il y a en amont. Je me demandais d'ailleurs, oui, quelqu'un doit savoir si l'exposition sur Xenakis et Lupik, elle se trouve à la bibliothèque.
Non, dans l'espace Accélérat dans Fac des Lettres.
Espace Accélérat dans Fac des Lettres, voilà. Donc ça peut compléter très largement si vous n'y êtes pas allé. Elle est installée là-bas. Donc ensuite je ferai quelques rappels, je vais m'organiser comme ça, je vais faire quelques rappels sur la notation musicale. Ce sera très sommaire, mais depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui, enfin surtout sur le pic. Et je tenterai de montrer l'intérêt qu'il peut y avoir à emprunter à la physique la représentation de l'évolution d'une donnée en fonction du temps. Puis je ferai la démonstration de plusieurs programmes, dont UPIX 2001, si vous le souhaitez, pourquoi pas, on peut le faire, et un programme de lecture de dessins probabilistes, et je finirai par UPIX Sketch. Il faut d'abord que je dise aussi que cette conférence fait écho à une autre que j'avais faite en 2011 à Londres, et elle fait écho parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé combien il pouvait être intéressant de relancer le projet UPIC. C'est à ce moment-là. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, à cette occasion, on a pu organiser des ateliers sur l'UPIC 2001. Et il faut savoir que globalement, pas grand-chose n'avait changé dans l'interface et dans la programmation, entre l'UPIX 2001 et la version précédente de 91. Donc nous étions en gros en train de travailler sur un programme qui avait 30 ans d'âge. 20 ans d'âge, pardon. C'est maintenant qu'il a 30 ans d'âge, mais donc on travaillait sur un programme qui avait 20 ans d'âge, qui est quand même dans le monde logiciel quelque chose de complètement extraordinaire. Enfin, un contenu surtout des retours qu'on a pu constater et de la satisfaction, même malgré les difficultés de l'interface, quelque peu des fois difficile, un intérêt certain. Ce qui a fait que ce qui nous a poussé à regarder un peu ce qui pouvait se passer dans le monde logiciel autour de cette époque-là. Et suite à ça, on a conclu que finalement, il n'y avait pas vraiment d'équivalent à l'UPIC. Donc c'est cet atelier en 2011, suivi de d'autres qui ont eu lieu aussi au ZKM et au Havre en 2013, avec des étudiants des Beaux-Arts, qui fait qu'on est aujourd'hui à présenter le programme UPI Sketch, 18 ans après la fermeture du CMAMU en 2001, suite à la mort de Xenakis. Là c'est un document qui montre où est-ce qu'on pouvait trouver l'UPIC en France. Ça montre aussi à quel point la machine était quand même quelque chose d'assez... il fallait avoir les moyens pour en disposer. En plus de ces endroits-là, il y avait une machine à Athènes et une autre aux États-Unis, qui fut achetée par celui qui devient après le directeur des ateliers Pi. Alors, pourquoi est-ce qu'on est intéressé par un outil permettant de dessiner pour produire des résultats musicaux ? La réponse est simplement, pour moi, dans la notation. La notation augmente considérablement le pouvoir compositionnel. Les représentations graphiques ou littérales de musique sont un sujet largement documenté. Il y a des ouvrages tels que « Du son au signe » de Jean-Yves Bosseur, ou le livre « Notation 21 » de Teresa Sauer, dont voici quelques images d'œuvres représentées. On voit qu'ici, enfin je passe tout de suite là-dessus parce que, en fait, je m'arrêterai là parce qu'après, comme vous allez le voir, dans l'approche upikienne, on opte pour une représentation non ambiguë des données qu'on souhaite décrire. Et ici, comme on peut le constater, c'est très largement sujet à interprétation, évidemment. Alors, je vais donner quelques repères historiques. Oui, ça, c'est aussi un exemple de John Cage. Des tablettes d'argile ont été découvertes au début du 19e, dans l'ancienne cité de d'Ougarit, dans l'actuelle Syrie. Elles dataient d'environ 1400 avant l'ère commune et constitueraient le premier exemple de notation musicale connue. Donc, bon. Voilà, ça c'est quand même. On est un peu surpris de constater qu'on a d'arriver aussi loin dans le temps, puisqu'après je vais passer directement au grec. Dont le premier système de notation apparaît sous forme de signes alphabétiques, à l'instar de l'exemple précédent. Et un fait amusant à l'époque, c'est qu'il existait dans la manière, avant la manière symbolique du reste, dans la manière de nommer les hauteurs de l'échelle musicale, le terme qui était utilisé pour désigner le son le plus grave était hypaté, hypate, qui veut dire plus haut. Donc au début de la représentation, enfin de l'imaginaire peut-être, je ne sais pas, on avait les sons graves qui étaient en haut. C'était à cause de la conformation de l'instrument de référence à l'époque, qui était la lyre, et dans laquelle la corde la plus grave se retrouvait en haut. Depuis, on a eu des conventions. La convention généralisée est toujours d'avoir les aigus en haut et les graves en bas. Le temps, pareil. Le temps se déroule de gauche à droite. Le système grec est un bon ancêtre aussi de celui imposé par Guy d'Arezzo vers l'an 1000. C'est celui à qui on doit le nom des notes telles qu'on les connaît aujourd'hui. Ut, ré, mi, fa, sol, la. La notation pneumatique également, je n'ai pas d'exemple que j'ai fait. La notation par pneum, qui décrit les inflexions de hauteur d'un chant en apposant différents types de signes incurvés, en regard avec le texte, date du 9e siècle, Et elle se précisera lorsqu'on aura l'idée de la fixer sur un cadre de référence constitué de lignes parallèles qui deviendra notre portée. Il y a une page de Xenakis à laquelle je fais souvent référence parce qu'elle nous positionne dans un esprit de transdisciplinarité et on voit aussi à quoi on s'intéresse. Où est-elle ? Ah, je ne l'ai pas là, tiens. Je l'ai omis du diaporama, donc, mais en fait, c'est un tableau dans lequel on compare l'évolution des sciences en vis-à-vis avec la musique. Et il se trouve que. Alors, il faut que je retrouve cette citation. Bon, je n'ai pas le texte en in extenso, donc je ne vais pas. Donc, on parle. Ah, bah, si, on va pour presque. Il cite l'invention de la représentation bidimensionnelle des hauteurs en fonction du temps par l'utilisation de portées et de points, Guy d'Arezzo, 3 siècles avant les coordonnées par Oresme. Donc, on a. je n'ai pas ces images non plus.
D'accord.
Cette image-là est l'un des premiers graphiques connus qui représente la chute d'un corps, mais en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a quand même aussi découvert d'autres représentations plus anciennes. Nettement plus ancienne, celle-ci est censée dater du 10e siècle. Et elle est supposée représenter l'évolution de la hauteur de plusieurs corps célestes en fonction du temps. C'est très exceptionnel comme représentation parce qu'en fait, on s'aperçoit si on s'intéresse à la question que et c'est tout à fait incroyable. On a peine à imaginer ça, mais ce type de notation, finalement, ne se généralisera qu'au XIXe siècle. Un type de notation qui, pour nous, semble complètement naturel et évident. Un type de notation qui sera utilisé finalement lorsqu'on arrive au XXe siècle par des gens comme Varèse, ici en 1958, et par Xenakis avec Metastasis. Ici, nous partons de graphiques qui nécessiteront ensuite une retranscription pour permettre à l'orchestre de jouer cette pièce. Mais avec Metastasis en 1954, c'est aussi l'origine de cette pensée qui nous amène jusqu'en 1977 avec la création de l'UPIC. Et voici donc ce que Xenakis dit à propos de l'UPIC.
L'homme, une machine, un être.
Comme l'ont fait remarquer quelques étudiants tout à l'heure, ce que vous avez vu était surtout en partie très démonstratif, dans le sens où quand on voit Xenakis faire des cercles, c'est pas une réalité qui correspond à l'UPIC, peut-être qu'on l'utilisait, c'est impossible de faire des cercles. C'était vraiment pour le show. Ici, c'est une esquisse de Mycène Alpha, justement. Donc là, je vous montrerai pas le déroulé. Il existe une vidéo sur YouTube assez fréquentée où on a toute la partition de Mycène Alpha en regard avec une tête de lecture. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure quand je disais que l'esquisse. Il y a déjà pas mal de travail en amont avant d'arriver sur le pic. Ce sont des calques qu'on va poser sur la tablette à digitaliser les gestes. Et on va ensuite repasser sur ces calques pour numériser toute la partition. Alors, il y a cet aspect graphique, architectural, qu'on voit ici. Moi, ça m'interroge, je vous invite à poser des questions là-dessus aussi, parce que là, je vais vous montrer quelques images des copies d'écran de l'UPIX. Là, il y a une série par Aswell et Hecker, qui sont des artistes qui ont fait plutôt des événements dans un cadre plutôt musique populaire. Enfin, musique populaire, événement populaire, c'est-à-dire de l'image, du flash et un gros son. Ce qui est intéressant à voir, c'est bon, et donc il y a toujours un aspect graphique, il y a une approche graphique au départ, il y a vraiment plusieurs manières d'aborder la chose, mais on sent qu'il y a quand même un désir d'architecturer, il y a un désir de. On voit qu'il y a une volonté plus ou moins de synesthésie quelque part. Après, ça dépend complètement de comment chaque trait est interprété par la machine, évidemment. Mais ce n'est pas forcément... Enfin, c'est-à-dire que ça nous emmène vers un autre domaine que celui de la musique classique aussi. C'est ça qui est assez significatif là-dedans. Où on n'a pas forcément une pensée très précise, musicale. Si on a en tête le travail sur les hauteurs et l'harmonie, par exemple. Alors ça, ce sont des copies d'écran, aussi une série de l'atelier qui a été fait au Havre, avec les étudiants de l'ESSA d'art. on observe un peu, comme ce sont des gens qui sont quand même aussi versés dans le son, ils sont pas seulement de l'image. Il se trouve que ça a donné d'assez bons résultats parce qu'ils ont trouvé quelque chose qui allait bien à la fois au niveau visuel et au niveau sonore. Alors il y a aussi des exceptions, il y a eu un irréductible qui est resté sur ça. Donc ça c'est... Je pense qu'on doit pouvoir dire que c'est pas une partition. Après, ça aurait pu devenir quelque chose de musical. On peut imaginer un travail d'interprétation des traits jusqu'à arriver à cet événement terrible qui survient à la fin. Alors, j'ai aussi maintenant, avant de passer à Upisketch en lui-même, je voudrais vous montrer un système de représentation que je pourrais imaginer implémenter plus tard dans Upisketch. Ici, à gauche, on a trois dimensions représentées en perspective. Et à droite, on a la même chose, mais avec des niveaux de gris, le plus foncé représentant le plus haut. Cette méthode permet éventuellement de pouvoir dessiner, parce que là, on avait l'habitude avec le pic d'avoir que deux dimensions. Je pense que ça peut nous apporter une troisième dimension quand même. Alors, oui. Oui, alors pour moi il y a une superposition de courbes aussi. Enfin, là c'est une manière pratique de représenter la chose en restant toujours dans le paradigme des deux dimensions de la page, enfin de la feuille sur laquelle on dessine finalement. Après on peut faire des couches de tout ça. Cette représentation-là, j'imaginais pouvoir faire quelque chose dans ce style-là. Donc là, je vais lancer une autre application. Ça marche déjà, c'est extraordinaire. Voilà, j'avais fait un petit programme pour expérimenter ça. Le dessin, du dessin probabiliste. C'est-à-dire qu'on lit une courbe en se positionnant comme ça. Et on génère des événements qui correspondent à la lecture d'une tranche de cette courbe. Et cette tranche de courbe représente une distribution de probabilité qu'on voit sur la droite. Donc ici, elle est très peu étendue. Le son, c'est l'enceinte, c'est pas nous. Voilà, là on voit qu'on a une distribution assez plate sur un ensemble réduit de cette manière-là. Bon, il est possible de changer d'image aussi. Est-ce que je pourrais vous montrer? Alors, ce qui m'intéresse là-dedans, bon, là, c'est basique parce qu'on envoie des événements via Open Source Control à une autre application qui va créer des événements MIDI pour un synthétiseur. Ce que je peux imaginer, c'est qu'on est ça dans UpiSketch et qu'on ait évidemment le moteur de synthèse sonore intégré directement, de sorte qu'on a quelque chose de plus riche. Ce qui me fait dire que on peut aussi imaginez que là, du fait qu'on utilise des images qui ont été traitées dans Photoshop, on peut imaginer qu'on peut aller vraiment très très précisément dans le dessin. Alors je ne sais pas si on arrivera un jour dans UpiSketch à aller aussi loin dans le dessin que Photoshop. Mais en attendant, Photoshop dispose de techniques de transformation qui sont forcément intéressantes pour nous. Et qui ont certainement une valeur musicale. Oui. Donc là, il y a des transformations. Par exemple, on peut imaginer qu'on applique un mélange de deux images, une grille horizontale et une grille verticale, qui fait office de variation finalement sur un même matériau de base, matériau horizontal, matériau vertical. On a juste décalé le masque vertical. On a quelque chose de similaire, mais pas tout à fait globalement similaire, mais dans les détails, pas exactement pareil. Voilà. Si on arrive un jour à obtenir un résultat probant avec une image aussi précise et à entendre ce qui se passe, ce sera très intéressant. Bon. Voilà. Pour l'instant, nous en sommes à UpiSketch. Et qui est né en 2018, suite à une collaboration entre le SIX et l'Université européenne de Chypre, dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Creative Europe Programme, qui s'appelle Interface. Et notre contribution s'est concrétisée dans une section qui s'appelle Urban Music Boxes and Troubadours. Cette contribution, elle a consisté au final, une fois qu'on a terminé le logiciel, il y a eu des boîtes, des bornes qui ont été créées, il y a eu plusieurs. Bornes UpiSketch ont été créées à Chypre, dans plusieurs villes de Chypre, et elles ont été posées dans des endroits publics pour libre utilisation par tous les passants. Ça a été la première sortie, c'était en été 2018. Maintenant, nous en sommes à UpiSketch 2. UpiSketch 1 était disponible uniquement pour appareils mobiles Apple, sous iOS. Maintenant, on a une version pour iOS, Windows et OS X, qui est disponible sur le site du centre Xenakis, dont j'aurais dû fournir l'adresse éventuellement, mais donc on peut trouver sur le site du centre Xenakis / centre-yanis-xenakis.org/upisketch les différents liens de téléchargement. Cette application est gratuite. Voilà, et pour ceux qui ont lu le programme avant d'arriver, peut-être que vous avez déjà téléchargé la chose. Bon. Donc je. Alors oui, je me demandais si vous étiez intéressé par juste une petite démonstration de l'UPIX 2001 aussi. Avant de passer une pisquette ou. Ouais. Un nouvel utilisateur. Alors au départ, quand on ouvre la session pour la première fois, et en général d'ailleurs, nouveau projet, on a plusieurs objets, pas mal d'objets à créer. On a une enveloppe. Une table d'amplitude. Une forme d'onde une table de fréquence et enfin on peut arriver à la page qui est l'espace principal de travail c'est la partition Alors ici, on voit qu'on est en train de lire une forme d'onde sinusoïdale, très simple. Et comme on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, on peut modifier la forme d'onde en direct. Donc chaque arc ici qu'on a dessiné finalement est complètement paramétrable avec on peut lui assigner des formes d'ondes différentes, des enveloppes différentes aussi. Je peux éditer l'enveloppe de manière à avoir un effet plus percussif éventuellement. Ah oui, non, ça c'est la page, d'accord, c'est l'enveloppe est assignée à la page en fait. Donc ensuite, que vais-je vous dire Ici, on peut aussi imposer ce qu'on peut appeler, en quelque sorte, un crible basique, déjà. Donc imposer, en fait, au lieu d'avoir cette ligne continue, d'entendre une ligne continue par rapport à la ligne continue qui est dessinée, on peut contraindre les auteurs à rentrer dans un système différent en éditant la table de fréquence. Si je définis la table de fréquence comme discrète et que je décide de faire une division par octave différente de la division habituelle, enfin, je peux faire 6 hein, déjà, comme ça on a des tons. Là, on a divisé l'octave par 6. Accéder à différents systèmes de hauteur. Bon, je crois que je vais passer à UpiSketch. Il y a d'autres choses que je peux montrer, enfin, la modulation de fréquence et tout ça, mais ça va aller, je pense. Ouais, c'est pas mal déjà. Au niveau du temps, on n'a pas de grille. On n'a pas de grille.
Oui, c'est ouais. Intéressant.
Alors,
qu'est-ce que ça va donner ?
On n'a pas de grille. Alors peut-être qu'il y avait quand même. Ah oui, non, enfin, pardon, il y avait cette fenêtre aussi quand même qui. Voilà, pardon. Donc là, il y a quand même le temps qui apparaît. Bon. Et les fréquences. C'est vrai qu'on reste dans l'idée d'une page vraiment vierge, blanche. C'est une idée assez importante. Bon. Qui est la raison pour laquelle dans UpiSketch aussi on a cette option là. On n'est pas obligé d'avoir une grille, on peut désactiver l'affichage de manière à se sentir plus libre si on est un peu effrayé par l'aspect musical et technique de. Donc UpiSketch. Alors UpiSketch, lorsqu'on démarre UpiSketch. Déjà, je vais quitter UpiSketch. Voilà, il faut, quand on est sous Windows, il faut définir la sortie son, sinon on risque d'avoir des problèmes. Le premier outil de base, c'est le crayon. Lorsqu'on démarre UpiSketch, normalement, là, il y a le point d'interrogation qui apparaît aussi pour avoir une idée de comment ça fonctionne, le help. Voilà. Donc le crayon fait apparaître sur la gauche une liste de sons éventuels. On choisit un son et on dessine dans cette page qui est la partition. On a au départ un retour sous forme de son sinusoïdal simple, pour entendre déjà ce qui se passe un peu au niveau hauteur. Et une fois qu'on a dessiné, on rentre dans la resynthèse par rapport au son existant. Qui suit le profil de hauteur qu'on a déterminé là. Pardon. Ça c'est undo, annuler. Une fois qu'on a créé ce geste, on a la possibilité de le déplacer. Si quelque chose ne nous plaît pas quelque part là-dedans, enfin bon, de toute façon, on peut donc modifier l'enveloppe. Ça, c'était la première page dans UPix. Il y avait l'enveloppe au départ. On peut modifier cette enveloppe de cette façon-là.
Oui.
Peut-être faire un zoom sur justement le fait qu'il y a des points en fait de contrôle.
Ouais.
Pour interpoler, des points si ça des points interpolés.
Oui, mais je n'ose pas. Montrer des choses aussi terribles. Non, parce qu'en fait, on est dans une version où il y a beaucoup trop de points. On ne réduit pas les points. Mais je... C'est au menu du développement de la prochaine version, c'est-à-dire qu'on va se simplifier le nombre de points qui sont créés lorsqu'on crée une courbe. Donc là, on a l'outil de sélection. Et ces points-là, on peut les modifier. Mais évidemment, on n'a pas de raison pratique d'avoir autant de points. C'est dans la vectorisation que ça va se passer. Avec la main, on se déplace dans la page. Ici, ça restaure, si on est perdu dans la page quelque part, on peut appuyer sur ce bouton. Il nous ramène à la totalité de ce qu'on a fait. Lorsqu'on a fait ce que nous appelons un geste, ici, ça c'est cool. Maintenant, nous avons trois gestes. Donc, la manière de dupliquer qu'on emploie pour l'instant, c'est ça, c'est qu'on va dans la liste de gestes à gauche et qu'on les glisse sur la page. Donc, nous pouvons dupliquer de cette façon-là. Voilà, on peut aussi les dilater. Alors la dilatation, elle s'opère comme ça, en allant chercher la barre verticale à droite du geste. Une fois qu'on a... Bon, alors il y a aussi intéressante fonction, c'est de pouvoir grouper des choses. Donc là, j'ai groupé. L'opération n'est pas tout à fait évidente, mais voilà comment ça se passe. On double-clique sur le premier geste, on clique sur les autres, et il faut cliquer à l'extérieur pour terminer, pour valider le groupe. Une fois qu'on a fait ça, on a ce groupe qu'on peut déplacer, déplacer à loisir. On peut également peut également dupliquer des groupes et se retrouver avec des complexes sonores plus importants.
Surtout c'est très riche dans ce que tu fais.
Oui.
Si tu es en train de faire un métier de, par exemple, on pourrait dire de petits filetos, tu vois, ton geste, en fait, enfin des imitations. Mais tes entrées, en fait, elles vont être complètement sur des temps réels. On a l'habitude de faire des entrées canoniques qui sont sur des temps discrets. Et, enfin, je veux dire, vraiment par rapport à des unités minimales. Là, ce que tu peux faire, hein, tu n'es pas obligé de respecter ça. Aussi.
Oui.
C'est sympa, ça. Des rapports de temps, si on les compare, qui sont complexes.
C'est intéressant, et c'est intéressant aussi d'imaginer qu'on est plutôt que cette grille qui se positionne toutes les secondes, ou alors, comme là, je propose dans les réglages de mettre des plus de divisions par seconde, vertical lines par seconde. Là, on est à une. Il faut zoomer après. Vous zoomez. Oui. Voilà. Ah. Bon, on peut régler un petit peu, mais c'est très basique. Et l'idée, probablement, c'est aussi de pouvoir définir des grilles qui sont celles qu'on des grilles plus précises qu'on aura définies comme n'étant pas forcément régulières, par exemple. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que donc dans le domaine des hauteurs, là, c'est pareil. Bon, on a, pareil que dans UPIC, on peut diviser les hauteurs, l'octave différemment. En revanche, pour l'instant, ce n'est pas. Il n'y a pas d'application sonore à ça. On sait juste visuel, c'est un repère visuel. Aussi décider d'afficher des fréquences plutôt que. Bien sûr. Et donc, on peut avoir une grande précision quand même dans les hauteurs, ce qui n'est pas inintéressant non plus, voilà ce que c'est que je voulais dire. Que dois-je montrer maintenant? Il y a des questions peut-être maintenant. Dans UPIC, la version 2001.
Non, dans celui-là.
Dans UPIC Sketch en général, oui, dans UPIC Sketch 2, on manipule les échantillons. C'était un choix.
D'accord.
Mais en fait, c'est ce qui va arriver bientôt, c'est qu'on va repartir aussi sur de la synthèse, de la vraie synthèse.
Parce qu'à l'époque de Xenakis, c'était la synthèse.
C'était de la synthèse uniquement, et enfin, oui, alors, du fait qu'il y ait eu quelques. Le retour sur l'UPIC a souvent été qu'il y avait un espèce de son UPIC. Et ça, c'est dû éventuellement à la pauvreté du fait qu'on a juste une forme d'onde et qu'on n'a pas vraiment de moyen de la modifier de manière évolutive. Mais par contre, La plupart des gens qui ont utilisé la machine ont trouvé des workarounds, des manières de passer à travers ce problème en utilisant des fonctions de modulation d'amplitude et de modulation de fréquence. Et là, une autre chose qui a quand même été possible, ça a été d'introduire des échantillons, somme toute. Mais c'est pareil, les échantillons, on était super limité en taille à cause de la puissance du calcul à l'époque. C'est ce qui fait qu'on est maintenant, on a l'impression que si on part sur l'idée d'échantillon, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant du point de vue du timbre, parce qu'on garde l'évolution du son qu'on peut choisir, nous, enfin on peut aussi créer des sons en enregistrant des sons, ou rentrer des sons dans le catalogue, et garder quand même une espèce de d'intégrité. Alors là, c'est une mélodie qui est chantée, donc à plusieurs hauteurs. Là, le fait qu'on ait dessiné juste sur un unisson va imposer la hauteur qu'on a dessinée. Hein. Voilà. Ça, c'est, oui, c'est l'une de mes filles, oui. Oui, et après, donc, c'est cette base-là, c'est un peu de la synthèse granulaire, mais c'est pas encore c'est pas la synthèse granulaire telle qu'on voudrait l'implémenter plus tard, c'est-à-dire que ça va être, je pense, beaucoup plus souple et précis. Ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir utiliser les contrôles habituels de synthèse granulaire sur des sons sources. Oui.
Est-ce que vous envisagez de travailler sur le Open RAN ?
Oui.
Merci.
Oui, on l'envisage, mais... Oui. Mais il faut trouver... je pense qu'il faut en discuter avec des gens. Par exemple, vous, je sais pas. Mais il faut qu'on en discute sur comment faire. Parce que je pense que c'est un problème qui n'a pas forcément été réglé au niveau des interfaces. Le contrôle du panoramique.
Peut-être qu'il faut rajouter une courbe comme pour celle de l'angle.
Ouais, mais une courbe, gauche-droite, on ne sait pas vraiment comment on fait quand on est, par exemple, en haut, on est à gauche, en bas, on est à droite. Comment on fait pour repartir directement à gauche lorsqu'on vient de la droite. Enfin, il y a une espèce de truc pas très continu. L'idéal, c'est d'avoir le plan de l'espace, mais là, on perd le temps. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Parce que quand on est... Si on veut faire un mouvement qui se positionnerait en fait ici à la frontière, un truc comme ça. Ça c'est possible avec une représentation de l'espace, mais c'est pas possible avec la courbe. La courbe avec le temps en abscisse.
Thank you. si à la cuisine on a des automations, vous avez tout à fait à faire.
J'ai l'impression que ça me pose un problème quand même. Non, ça pose un problème en fait, c'est pas tant. Oui, non, c'est surtout le fait que gauche-droite ça va, mais si on part sur 4 points, là ça devient compliqué. Oui, en fait, c'est ça. Et on a envie de partir sur 4 points forcément. Parce que gauche-droite, à peu près tous, ça ne nous apporte pas de temps. On peut le faire. Enfin, pour moi, c'est ce qui serait intéressant, c'est d'aller plus loin que gauche-droite, évidemment.
Oui.
En fait, moi, j'ai terminé à peu près. Hein, je sais pas si...
De lecture là, et tu le mets à l'intersection des zones bleues, des groupes bleus, et voilà. Donc, on va être capable de dire quel accord exactement, par exemple, est obtenu, en sachant que c'est des rapports de fréquences qui vont être réels ici. On n'est plus dans des mondes, on n'est plus sur les biais tempérés, on est sur des rapports réels, ça peut être très bien. Ça va donner un vecteur avec des intervalles. Et qu'on a aussi une volonté aussi d'apporter énormément de précision là-dessus. Sur justement le fait que si, par exemple, on veut une tierce pure au-dessus de ton geste nuage, par exemple, on va être capable vraiment de générer... En gros, on veut vraiment apporter un contrôle très précis sur les rapports de fréquence. Voilà, la même chose sur le temps. Hein. Par exemple, si je veux faire un canon rythmique qui est permanent, mais avec... Je suis dans un truc où il y a des mondes partout tout le temps. J'ai envie de faire deux unités de temps qui vont se superposer, mais pas comme enfin, suivant des rapports irrationnels, des rapports complexes du temps, qui ne vont jamais se rencontrer, par exemple, et qui ne montreraient qu'à l'unité. On va apporter ce niveau de précision.
Oui. L'idée, ce serait peut-être d'avoir une colonne avec un catalogue d'opérations possibles, par exemple. D'opérations à effectuer sur des choses dessinées.
Et de transformation aussi.
Et de temps, oui. Alors la transformation, évidemment, il y a encore tout un panneau.
Des inverses temporelles, des inverses potentielles.
Oui.
Tout ça, déjà, il y en a plus d'autres. Pour les automates cellulaires, c'est un truc qu'on voit bien. Quand par exemple, on aura un nuage de points, on peut très bien avoir des mèches de points, on n'est pas obligé toujours d'avoir des courbes, on peut très bien avoir des mélodies discrètes, mais qui sont avec des intervalles réels à chaque fois. Donc, on n'est plus dans la puissance de 2 forcément, dans les claviers, les claviers à division linéaire. Et qu'on va pouvoir itérer par une transformation comme le calcul d'intervalles, comme le faisait Guillaume par exemple. Des calculs d'intervalles, par exemple, des opérations. Par exemple, si c'est l'exemple classique, si tu as une mélodie qui fait demi, 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 on calcule et que ça donne ah tiens do mi ça va donner un certain intervalle, mi do ça va donner un certain intervalle, et des opérations comme ça qui vont permettre de simplifier le matériau, et ça va nous donner du coup, si on a un nuage de points qui est une mélodie, une nouvelle mélodie qui est la transformation du nuage de points comme ça. Donc plein de fait une palette vraiment là, c'est ce dont on parlait, vraiment une palette. Que ce soit beaucoup plus intuitif pour que le compositeur se dise ah, j'ai quand même pas mal d'outils à mes dispositions et de transformations à étudier.
Oui, c'est prévu. Ouais. Ouais.
Et sinon, si on se met au niveau des enfants,
il n'y
avait pas des sons qui étaient très ludiques ou il y avait des.
On reste toujours. On est au niveau des enfants, on peut le dire, je pense, mais bon, après, très ludique.
Je me souviens de Le son d'animaux.
Oui, oui, on a des animaux là-haut, oui. Quelques animaux. Il a fallu que je réduise le catalogue animaux, en fait. Parce que ça ne fonctionnait pas très bien avec la synthèse. Est-ce que vous avez pu utiliser ce programme et trouver des choses qui ne vous convenaient pas ? Oui, tout à fait. Il faut magnétiser la grille. Absolument.
Peut-être expliquer pourquoi ça serait utile.
Il faut magnétiser la grille pour pouvoir placer facilement plutôt que d'avoir à positionner de manière. Parce que c'est quand même une interface pas si évidente que ça. Moi j'ai fait une pièce. Si je l'ai, non, je l'ai pas. Donc j'ai commencé par écrire sur du papier millimétré et après j'ai réécrit, j'ai retranscrit ça sur l'écran, enfin sur la tablette. Je sais pas si comment tu avais travaillé toi. Tu avais fait directement sur la tablette?
Oui. Et après,
j'ai essayé de prendre le plus vite possible comme toi. Oui, oui. Et donc, ça, c'est du boulot quand même. Enfin, on peut être aidé par des griffes. Ouais.
Est-ce que tu ne penses pas que justement faire à la OneNote, c'est d'abord une détection une fois que tu vois un petit déplacement. Par exemple, je fais ça, ça va zoomer ou dézoomer. Je me déplace, et par contre, mon stylo qui est un stylo actif, j'ai un bout plus. Lui, et le seul responsable et la seule personne qui peut écrire. Du coup, tu es tout le temps en train de faire ça avec les deux. Mmh. Et là, ça devient directement. Enfin, comme dans OneNote, OneNote 2016, c'est vraiment un exemple pur pour.
Oui, donc il n'y a pas. Parce que c'est vrai que là, il n'y a pas de. Sur la version tablette, il n'y a pas de séparation entre le doigt et le stylo. C'est ça.
Alors, tu t'as discriminé certaines personnes qui vont payer 80 balles pour un stylo, mais c'est pas. Sinon, ça permet vraiment de faire un truc. Sachant que pour l'instant c'est gratuit, mais ça se fait.
Complètement. Il faut garder la compatibilité, enfin la possibilité pour les autres.
Il y a une option sur sa tête.
Oui.
Il y a une option qui dit écoutez, si vous avez votre souris, vous pouvez quand même, ça va être un peu plus galère. Mais par contre, si vous avez votre doigt.
C'est vrai que c'est ce que j'ai observé aussi. Oui.
C'est vrai que c'est.
Que ça facilite, oui. Faciliterait.
Non, peut-être. J'ai pas le temps de regarder si ça existe. Donc, j'ai vu qu'il y avait des exports audio. Il faut peut-être avoir un export graphique aussi. Je ne sais pas s'il existe. Export encore, ça peut être intéressant pour récupérer les courbes.
Export graphique, oui. Ah oui, sous forme de SVG peut-être. Ou un truc comme ça.
Ça peut, par exemple, vous dites sur le réseau social.
Oui. Oui.
Après, on peut peut-être avoir aussi d'autres outils, du type on tire des traits. Parce que là, on fait des courbes.
Oui,
ça peut être sympa peut-être d'avoir un outil qui permet de faire très droit.
Oui, il y a ça dans le PIC.
Ça
non, l'ancien EPIC. Vous pouvez tirer des traits, c'est pas mal.
L'objectif, c'est qu'on doit arriver, moi j'étais arrivé à faire une moitié, j'ai fait une fume comme ça, où j'arrivais à faire à peu près des croches, tu vois, c'était vraiment à 60 à la noire à peu près.
Ouais.
J'arrivais à faire comme ça,
Mais c'est vrai que pour aller dans la micro-rythmie, j'avais envie de mettre des, justement d'en profiter, mais comme ça, tu vois, en me disant, il faut casser tout ça. Et c'est vrai que bon, bah, là, pour l'instant, on n'est pas encore là. C'est bien pour faire des rythmes qui sont assez lents, mais pour l'instant, c'est plus fort sur les courbes. On est fort sur les courbes, mais pas encore assez sur justement le fait d'aller dans la micro-rythmie très, très, très.
Parce qu'on n'a pas, fait en sorte de pouvoir zoomer suffisamment ? Non ?
Ce qui manque encore, c'est un peu un input, tu vois, en disant, tu sais, comme avec la représentation bah, qu'on a l'habitude, par exemple, de superposer la représentation d'un de la cible plus, enfin, celle qu'on a l'habitude d'avoir, tu vois, et comme de logiciel de Sibelius, et de dire, si tu veux, par une telle unité de temps, par exemple, des 16e de croche, qu'on soit capable de dire, tu vois, qu'il y a cet aspect ludique, et d'un coup, ça coupe la ta courbe de chien 3, là, ça la coupe en plein de morceaux, tu vois.
Avec des attaques.
Ouais, avec des attaques, justement, tu vois, le rythme, enfin, d'amener un peu de discret, je pense que c'est...
Oui.
Derrière, en fait, c'est d'apporter aussi un peu de discret dans ce continuum, en fait, des fois...
Oui, complètement, oui.
C'est pour l'instant, les
pièces... c'est une transformation.
Parce que les pièces que, par exemple, tu vois, j'ai écoutées, elles sont super, tu vois, sur le point où ça m'a donné des super possibilités d'un point de vue courbe. Mais d'un point de vue rythmique, ça m'a toujours. J'ai préféré faire des cours plutôt que d'essayer de me faire des cours.
Ouais.
Tout simplement pour rapprocher des exemples qu'on a pu voir avant la présentation. J'ai oublié le nom des mecs, mais il y avait des mecs ensemble avec les.
À soi les hackers, oui.
Ouais. Pour avoir ce genre de. Mais c'est son envie en trait.
Ouais, bah, on n'est pas très loin, j'imagine, non si on supprime toutes ces, ces choses. Bah, j'imagine qu'on peut avoir atteint une certaine richesse quand même dans le dessin. On peut dire c'est du pseudo continu, mais enfin, ouais. dans la pratique, ça ne me dérange pas.
C'est pas gênant, parce qu'à la vitesse, on n'a pas le continu.
Et du reste, parce que aussi, le fait qu'on... Enfin, si on zoome, on ne va pas se retrouver avec des pixels partout.
Comment on avait...
Parce que ça continue à interpeller. Hein.
Réintroduire ici pour faire un canon qui va partir à un autre endroit, comme ça, après, par exemple, après celui-là. Et on va pouvoir faire des canons qui vont jamais, donc ces deux blocs là qui vont se répéter, parce qu'après ça c'est périodique, ça se répète, comme ça. On va pouvoir s'amuser en fait à faire des canons qui vont jamais se rencontrer. Il suffit qu'on dilate par exemple avec un certain coefficient, ce que tu as fait en fait, tu t'es mis à dilater les choses, là, pour les agrandir ou les matriciens. On va pouvoir faire des canons qui vont jamais se rencontrer.
Oui.
Ça, c'est typiquement quasiment pas possible dans tous les logiciels qui existent à l'heure actuelle, c'est quasiment pas.
Oui.
Pas possible. Et on va pouvoir faire des rapports de fréquence évidemment qui sont nouveaux. Donc, voilà, qui sont pas. On va pouvoir avoir des trucs comme ça. Et ça, ce serait une bonne démonstration, je pense, rythmiquement, de pouvoir. En tout cas, c'est un peu aussi, c'est le travail plus moralement de la table, hein, avec Admin. Technique. Ça va être sympa, on en avait parlé.
Oui, et dans la pratique, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas gênant, mais il faut voir. Peut-être que si on fait ce genre de choses, qu'on utilise des nombres réels pour faire des canons, il y a un moment où on va peut-être s'apercevoir qu'il y a des artefacts, des choses qui viennent de la discrétisation du positionnement, je ne sais pas.
Ce qui est sûr, c'est qu'ils se rencontreront jamais. Par exemple, ça c'est en maths, une rotation qui
ouais, quand même.
Revenir au même endroit.
Ouais, vraisemblablement.
Une rotation rationnelle.
On va quand même réussir à obtenir cet effet.
Oui, ça serait très intéressant, parce que c'est à la fois quasi périodique, tu vois ce que je veux dire, ça crée une infinité en fait, d'événements, on a toujours l'impression d'avoir le même canon, et ça, je trouve ça passionnant, on me dit qu'on va voir.
C'est affreux, oui.
Ah, c'est ça.
Oui, tout à fait.
Peut-être que Moreno voudra du coup écrire un petit calcul sur moi.
Mais non, c'est des nombres réels. Dire un mot de la fin.
Moi, non. Juste te remercier.
Tu ne peux pas venir sur le plateau dire un mot de la fin.
Enfin,
pour être capté.
Il y a encore une question aussi.
J'ai une question du fond. On me demande si ça ne serait pas porté sur Linux.
Non. Ben non. Et... C'est portable sur Linux. Ouais. Si quelqu'un a le courage. parce que le code, il n'y a pas énormément de boulot à faire, a priori, si on connaît bien l'environnement Linux. Moi, je ne connais. Je connais pas. C'est possible. Mais c'est vrai que plus on porte sur des plateformes différentes, et plus on est quand même obligé de regarder un peu ce qui se passe à chaque fois.
Ça fait ça rajoute.
Ouais, a priori, ça marche, mais quand même, il faut quand même suivre ce qui se passe et ça demande beaucoup.
Bien sûr.
Merci.
Merci.